Bonjour à vous et bienvenue dans ce troisième épisode de Flux URSS. Cette fois, nous allons inaugurer une toute nouvelle catégorie. Ce sera un retour de lecture. Et cette fois-ci, nous allons nous pencher sur un livre. Et ce livre, c'est L'Euro contre la France, l'Euro contre l'Europe de Jacques Sapir. Et c'est sorti aux éditions Le Cerf. On se retrouve tout de suite après un petit jingle. USSR. D'abord, nous allons peut-être commencer par une petite mise au point. Comme vous le savez, je vais un peu mieux raconter peut-être la genèse de ce podcast. Nous sommes au troisième numéro. Je sais que mon premier numéro a fait un peu le buzz parce que j'avais parlé podcast. Oulala, attention, je suis méchant. Et non, pour en revenir à la genèse de ce podcast, en fait, c'est je souhaitais vraiment faire un podcast où je traite choses différentes sur un angle un peu différent que j'ai l'occasion de voir ailleurs, c'est-à-dire par là que je ne me reconnais pas forcément dans l'offre podcastique, d'autant plus qu'elle parle assez peu de politique en général. Alors là, aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre qui est à la fois politique et d'économie, mais je ne me retrouvais pas forcément dans l'offre que je retrouvais. Alors, on a un petit peu cette offre sur les radios, mais c'est pas souvent... C'est souvent un petit peu orienté aussi, hein. Je ne dis pas que ce magazine, cette émission plutôt, n'est pas orientée, mais on sent quand même qu'il y a une sorte de doxa. Par exemple, si moi j'apprécie de temps en temps écouter, alors c'est les informés sur France Info. Autant des fois il y a un peu de débat, autant des fois c'est du faux débat, parce qu'en fait tout le monde va un petit peu dans le même sens. Pour dire, par exemple, moi c'était sur la réforme de la SNCF, et tout le monde disait « Ah oui, il faut le faire en apportant des exemples comme quoi ça allait mal, mais en même temps, en oubliant de citer que ça fait quand même pas mal d'années que la France n'avait pas fait d'investissement majeur sur certaines parties du réseau, le réseau hors TGV, donc forcément on se retrouve à se dire que ce qu'on n'a pas entretenu va mal, parce que forcément on ne l'a pas entretenu, mais on ne dit pas qu'on l'a mal entretenu, donc on ne peut que découvrir cette magnifique découverte, comme si du jour au lendemain le réseau ferré français s'était dégradé d'un seul et unique coup. Quelqu'un a cligné des yeux et hop, le réseau s'est dégradé, c'est magnifique. Et voilà, moi j'essaie de vous apporter d'autres orientations. Alors moi-même, mon orientation politique est un peu vague, et si je ne dis pas que c'est un peu vague pour la cacher, non, tout simplement, j'aime farfouiller à droite à gauche. Certains, et ça les fera probablement tousser, coucou à toi, toucheux, quand je vais dire ça, mais je pense que certains auraient peut-être le toupet de me qualifier de rouge-brun, parce que je suis quand même assez proche du bord communiste, mais j'y vois quand même ses défauts, donc je ne suis pas, voilà, je ne reste pas fermé à pas mal de choses. J'essaie aussi d'avoir un avis, c'est-à-dire un petit peu pluraliste, c'est-à-dire que j'essaie d'ouvrir un petit peu mes horizons. Forcément, je suis aussi un petit peu, je pense que c'est le cas pour tout le monde, et je ne vais pas me cacher derrière cela. Mais on a aussi des aspirations qui sont propres à chacun. Donc je serai forcément plus, plus enclin à vous parler de certaines choses que par rapport à d'autres, parce que c'est mon approche. Je ne vais pas, par exemple, vous parler en bien du capitalisme et du libéralisme à tout rompre. Je pense que c'est pas possible. C'est humainement, je vais quand même essayer par acquis de conscience un jour de lire des livres qui traite de ça sous un bon angle, mais je ne sais pas si c'est pour tout de suite. J'espère un jour le faire, j'espère avoir l'audace de réprimer mes pulsions et de lire des trucs comme ça. Et par exemple, de lire un livre d'Alain Minc un jour, voilà, par exemple. Parce que si un jour vous voulez me faire rire, vous pouvez lire un livre d'Alain Minc. Vous m'offrez ça et vous verrez, je rigolerai beaucoup. Et je le lirai, j'essaierai de le lire. Hein. Je promets pas d'aller loin peut-être, mais j'essaierai au moins de le lire. C'est déjà pas mal. Donc, moi, j'essaie de faire preuve d'un certain pluralisme, mais j'essaie aussi, comme je l'avais dit dans mon épisode sur le podcast, tout à la fin, dans ma conclusion, pourrait-on dire, que à la fois le pluralisme Et le respect des autres n'est pas non plus le respect de tout chez les autres. J'entends par là qu'on ne peut pas non plus tout cautionner chez les autres. Parce que pour moi, je fais partie des gens pour qui l'ordre. J'ai pas de meilleure explication pour l'instant. L'ordre social passe un petit peu avant le respect pour l'un de l'individu. Je vais prendre par exemple un exemple qui est tout con, hein, qui peut paraître excessivement absurde, mais avec un magnifique libéralisme qui fait croire à peu près à n'importe qui. On peut, par exemple, faire un petit peu tous les trucs à droite à gauche, parce qu'il faut entreprendre. Hein. On est bien. On pourrait dire que par exemple quelqu'un pourrait construire une bombe nucléaire dans son jardin. Je sais pas comment il ferait pour y arriver. Déjà, il y a un jardin, c'est pas mal déjà. C'est-à-dire que c'est un propriétaire, ou peut-être là, c'est pas bien ça. Et il pourrait du coup menacer l'avenir de ses voisins proches, hein, parce que bon, si ça pète, eux, ils sont un petit peu morts. Sauf s'ils sont à la maison ou loin de chez eux, mais sauf s'ils sont pas à la maison plutôt. Mais c'est un petit peu débile comme explication. Et forcément, il mettrait à mal l'équilibre de la société. Alors, en prenant ça, vous allez dire, mais votre exemple est absurde, monsieur J81. Mais si on prend les mêmes politiques avec, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui défilent pour le droit, non, pour le interdire le droit à l'avortement, par exemple. Encore une fois, il y a plusieurs façons de décrire ça. C'est-à-dire que on se retrouve avec des gens qui essaient d'interdire à d'autres des possibilités qu'on laisse à l'individu, mais potentiellement, alors là je ne remets pas en cause le droit à l'avortement, je suis j'y suis pour, mais faut-il laisser beaucoup trop de liberté aux individus? C'est-à-dire que là on revient au cas où j'étais, donc le monsieur qui fait une bombe atomique dans son jardin. Et ça ouvre beaucoup de possibilités, et quand je parle bien de bombes atomiques, je peux aussi parler de gens qui font de la qui font énormément de spéculation avec l'argent, tout ça, etc. Je pense à nos amis, par exemple, il y en a plein, hein, Amazon, Dassault, il y en a, vous en aurez des pelletés, qui font prospérer les banques, tout ça, etc., qui à la fois spéculent sur la réussite de quelque chose et qui spéculent aussi sur son échec. Ce qui explique la crise de 2008, d'ailleurs. Ça, j'y reviendrai dans un autre épisode. Donc voilà, moi, le but aussi de cette émission, c'est de vous présenter... déjà, voilà, c'est de vous présenter d'autres choses avec... Est-ce que c'est d'autres points de vue? Peut-être, probablement. Mais voilà, c'est vraiment de vous présenter des choses que vous n'aurez, j'espère, pas l'habitude d'écouter ailleurs. Enfin, je ne veux pas vous faire croire que je suis dénicheur de talent. Je vais pas, non, pas du tout. Là n'est pas le principe, c'est que moi, j'essaie de vous présenter des choses que j'aimerais entendre un peu plus souvent d'ailleurs. Tout simplement. Et sans tomber non plus dans le grand complotisme, hein, parce que ça aussi c'est à la mode. Alors, sachant que le mot complotiste maintenant est utilisé un petit peu à toutes les sauces, un peu comme le mot facho. C'est un mot très sympathique, donc c'est-à-dire que on peut l'utiliser, maintenant plein de gens l'utilisent parce que. Quelqu'un, au lieu d'être à un angle de 0 degré, il est à un angle de 1 degré, étant attention, ce n'est pas bien, mais tu es un facho, tu es un complotiste. Donc je vais essayer de sortir de ce genre de comment ça s'appelle, de paradigme, voilà, je vais présenter des choses un petit peu différentes. Voilà, donc je pense que ça sera à peu près tout pour cette légère mise au point. Hein. Je pense que peut-être la mise au point aura duré plus longtemps que la présentation du livre, mais ce n'est pas grave, hein, on fait avec ce qu'on a. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Jacques Sapir. Alors pour tout dire, Jacques Sapir, alors qui est-il? Il est né en 1954 et c'est un économiste français. Il a, par exemple, il a été maître de conférences. Et voilà, il est quand même très réputé, donc il est réputé sur deux points. Vous voulez, il est réputé pour... parce que de toute façon, c'est un économiste, et plutôt connu, hein, je pense que son nom dira probablement quelque chose à certains. Et il était spécialiste de la Russie. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il fait, et je le cite, hein, c'est que d'autres gens, dès qu'on parle de Russie, tout ça, on voit, ça y est, c'est des russophones. des russophiles. Ils aiment Vladimir Poutine. Le soir, ils se touchent en pensant à Vladimir Poutine. Ils aiment le KGB et tout ça. C'est beau. Le KGB n'existe plus. Je ne sais plus le nom de son successeur. Je crois que c'est le PSB, je crois, ou le PSG. Un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi ce serait le PSG. Mais... Bref. Voilà, je préfère remettre les choses dans l'ordre, hein, parce que... Attention, je cite quelqu'un qui n'est pas... ce n'est pas à la main, hein. Voilà, donc il n'est pas toujours... Et donc il est diffusé sur des sites comme Russia Today ou Sputnik. Attention, c'est pas bien, c'est le mal. Voire même Thinkorswim. Attention, grand complot arrive. Surtout quand on voit certaines news de Sputnik, je peux vous dire que vraiment le complot, faut vraiment être con comme un balai pour y croire. Parce que il y a certaines news, moi je suis resté mais atterré dans la connerie. Je me suis dit, est-ce que c'est du Nord-Presse ou est-ce que c'est du Logography? Parce que c'était débile, par une fois, de pyramide ou je sais pas quoi, mais un truc, mais totalement con. Et puis je me suis dit, mais vraiment pour gober ça, il faut vraiment gober n'importe quoi, quoi. Enfin voilà, je préfère remettre ça dans son ordre, comme ça, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez raccrocher le combini. Donc, alors il a sorti, ce livre est sorti juste après, alors je crois qu'il est de 2016 ou 2017, je sais plus. Ça parle, 2016. Parce que ça parle aussi un petit peu du Brexit. Donc c'est Jacques Sapir, donc l'euro contre la France, l'euro contre l'Europe, le point sur la table aux éditions du CERF, ou du CERF, on ne sait pas le dire. Et je vais vous lire le quatrième de couverture. À l'origine de la crise de l'Union européenne se trouve l'euro, exacerbant les oppositions entre pays, il en corrode les fondations et met à mal la démocratie en suscitant la montée de pouvoir tyrannique. Toute ressemblance avec la réalité est totalement fortuite. Donc en fait, Jacques Sapir fait un petit peu... Alors c'est un livre assez court, il fait 58 pages. Si vous voulez vous poser des questions sur le pourquoi du comment de l'euro, il y a quelques récapitulatifs, il y a un petit peu de fact-checking ou du débunkage, comme dirait les journalistes qui aiment utiliser des mots anglais. Pour faire croire que c'est bien. Hein, voilà. C'est une maladie aussi, je comprends pas. D'utiliser des mots anglais pour mettre des mots anglais. Ça fait croire qu'on est sérieux, c'est surtout ça, ça fait croire qu'on est sérieux. Alors qu'en fait, on raconte de la merde. Donc en fait, c'est un petit livre, hein, du coup, 59 pages. Ce que j'ai noté, c'est une sorte de speedrun livre contre l'euro. Alors forcément, il a les qualités de ses défauts. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de sujets qui sont pas survolés, mais qui sont traités assez succinctement. Et ça, est-ce que ça gâche un peu? Alors c'est un apéritif, hein, diront certains. Donc je pense que son plus gros défaut, ça sera de m'avoir fait acheter un autre livre de Jacques Sapir, qui s'appelle, je crois, Faut-il sortir de l'euro, qui lui était sorti en 2013, et que je vous referai aussi là le retour un petit peu plus tard. Donc en fait, si vous voulez, dans ce livre, il nous rappelle, donc il nous fait un historique sur l'euro, tout ça, etc. Et il nous pointe les désavantages, bien évidemment, de l'euro, et les avantages que l'on aurait à en sortir. Hein. C'est tout à fait logique. C'est ce qu'on appelle un truc thèse, antithèse, et voilà. Pour tout dire, en fait, il parle de des soi-disant bienfaits de l'euro qu'il aurait dû avoir, donc c'est-à-dire... grosso modo, il aurait dû booster les économies en augmentant les échanges et donc en forçant une sorte d'augmentation de la production et on aurait gagné plein de pépettes. Sauf que, en fait, tout ça a été un petit peu contredit. Au départ, les économies de la zone euro, pas européenne, du coup, auraient dû gagner 1% à 1,5% de croissance, quand même. Sauf que dans les faits, on n'en est même pas à 1% de croissance tout court. Je parle par exemple pour la France, je sais que pour l'Allemagne c'est un peu mieux, mais pour l'Italie, tout ça, etc., c'est pas mieux. Donc forcément, on se sent un peu lésé. Parce qu'en fait, le but c'était de libérer l'économie par le biais d'une monnaie unique, donc d'avoir une zone d'échange inter-pays, plus homogène, et d'avoir aussi une monnaie unique pour permettre des échanges aussi vers l'extérieur, donc pouvoir faire des échanges avec le dollar, tout ça, et avoir ce qu'on appelle une monnaie forte, entre guillemets. Je vais un peu vite en besogne, j'ai pas fait trop d'économies, mais bon, visiblement, j'ai toujours plus de savoir que pas mal de gens sur Twitter. Bonjour les gens sur Twitter, hein, vous êtes tellement cons et consensuels que je pose des questions sur, Twitter, c'est une analyse sociologique, elle est toute seule, quoi. Ça, c'est magnifique. Donc l'euro, voilà, c'était ça à la base. Sauf que ça a été pas pris par-dessus le. Or, en fait, il y a eu. Ça a été un petit peu fait pour aussi brider l'Allemagne aussi, à une époque qui était en voie de réunification. On avait peur que de l'économie allemande, et ce qui s'est passé arriva finalement, en fait, la zone euro est dirigée par l'Allemagne, du fait que la Banque Centrale Européenne, en fait, elle est affiliée à l'Allemagne, quoi, grosso modo. Et c'est la plus grosse économie européenne, et c'est eux que ça avantage le plus, parce qu'ils ont un gros excédent commercial, donc en fait, finalement, voilà. Alors que les autres pays européens, la France par exemple, l'Italie, l'Espagne, voilà, c'est pas là-dessus, donc, eux ils sont déficitaires, je parle même pas de la Grèce et des pays comme ça. Là, ils sont carrément, eux, au 130e dessous. C'est-à-dire que les mecs sont quand même arrivés à des niveaux où ils ont moins de PIB, tout ça, etc. Bon, c'est que des chiffres, hein. Mais ils ont moins de PIB qu'au moment où ils sont rentrés dans la zone euro. Alors, tu dis quand même, c'est un petit peu fâcheux. Mais voilà, donc le but aussi, c'était de globaliser donc l'économie, de la mondialiser, et de permettre un échange plus libre des biens. Et qu'est-ce qui vient après les biens, bien évidemment, parce qu'il y a toujours un « et pas un « mais », il y a toujours les capitaux, sinon ce n'est pas drôle. Et en fait, cet euro, comme j'ai dit, voilà, c'est un truc globalisé, tout ça, etc., mais elle est affiliée à rien, elle n'a pas d'économie fédérale forte, quoi, en fait. Ouais, je me rappelle dans le livre, elle est affiliée à rien. En fait, l'économie de la zone, le PIB de l'Union Européenne, grosso modo, c'est 1% on consacre 1% du PIB à l'euro, quoi, à l'euro. La zone européenne, euro, etc. Alors qu'il faudrait arriver à peu près à 10%. Pour vraiment qu'on ait un vrai fédéralisme, quoi. Et ce qui fait que l'euro est attaché à pas grand-chose. Donc, en fait, l'euro qui devait nous protéger nous amener de la croissance, pas forcément le cas du tout, hein, faut pas se cacher. En fait, on a dû un petit peu creuser la dette, hein, tout simplement, pour aller chercher la croissance avec les dents, comme avait dit, je crois, Nicolas Sarkozy. Et ça, voilà, à part creuser la dette, on n'a pas fait grand chose de plus, parce que la croissance de la France est stagne, parce que ça fait peut-être même 30 ans qu'elle stagne, hein. Grosso modo, voire même plus, tout le monde disait qu'il fallait chercher à aller à la croissance avec les dents, etc. Et on se battra pour la croissance, mon ennemi c'est la finance, mais on n'a pas beaucoup avancé là-dessus, en fait. Et c'est à peu près pareil pour toutes les économies qui nous entourent, hein. Peut-être le Portugal un peu mieux, en voyant un petit peu les choses différemment. Mais il faut aussi peut-être voir que le Portugal aussi est un pays qui est devenu excessivement touristique, qui a misé beaucoup là-dessus, mais on se plaint, voilà, au Portugal par exemple, à Lisbonne, tout ça, que Lisbonne ou Porto deviennent des villes à touristes, c'est-à-dire que les gens n'ont même plus les moyens, eux, d'y vivre, un petit peu comme à Venise. Hein, voilà, c'est un petit peu un musée géant. Et c'est pour ça que je m'interdis d'aller dans ce genre d'endroit, parce que je ne peux pas participer à ce simulacre. Bon, voilà, tout ceci n'est que mon avis. Et après, voilà, donc Jacques Sapir aussi remet en perspective les discours comme quoi il ne faudrait pas quitter la zone euro, et comme quoi l'euro, c'est bien, point. On s'en arrête là, au coin de la phrase, et je vais d'ailleurs citer quelqu'un qui est europhile, hein, parce que europhile devant l'éternel, qui est ce fiefé Jean Quatremer, qui fait partie des gens que j'adore le plus, avec Alain Minc, bien évidemment, qui a sorti un livre début 2019, le 2 janvier pour être précis, on a très bien commencé l'année, et en fait il nous explique que pour sauver la zone euro et l'Union Européenne, en fait, là où il faudrait s'arrêter, comme dirait Jacques Sapir, et peut-être réfléchir à remettre un petit peu le projet à plat. Alors, par rapport à lui, je ne dirais pas que ce serait peut-être aussi simple, mais ça a le mérite d'être écouté. Jean Quatremer, lui, un jour j'essaierai de lire ce livre, parce que je pense que ça peut être bien rigolo, il décide, lui, d'appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur, en disant qu'il faudrait, par exemple, plus de fédéralisme. Voilà, donc sachant que le fédéralisme ne s'est jamais vraiment imposé dans l'Union Européenne, alors qu'il aurait dû dans la zone euro, plutôt même, que l'Union Européenne, c'est un petit peu plus vague, mais voilà, plutôt dans la zone euro, là on est intéressé, ce fédéralisme pour faire une monnaie qui est plus forte, et ben voilà, il en faudrait plus. Et en sachant qu'on a déjà du mal à faire le peu qu'on fait, moi ça me paraît un petit peu ambitieux. Et ce n'est pas la seule chose aussi que j'ai lue à côté de ça, parce qu'il y a eu pas mal de... Par exemple, il y a eu le prix... comment s'appelle cet homme? Parce qu'il a un nom un peu compliqué. Donc c'est... il a sorti un livre, donc c'est Joseph Stiglitz. Il a eu le prix Nobel d'économie. Et il a sorti un livre que je lirai aussi, je pense, avec attention, mais pas de suite. C'est l'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe. Et ça, je le lirai probablement avec attention. Et donc, on en arrive à des cas de figure où, alors, on pourrait me dire peut-être que, oui, mais peut-être que l'euro peut sauver, alors peut-être, je sais pas, je vous laisse vous renseigner, tout ça, etc. Je mettrai quelques petits articles avec ce podcast, sachant que le livre de Jacques Sapir, il est à 5 euros. Alors, moi, je me suis pas ruiné en l'achetant. Je me suis peut-être ruiné un peu plus en achetant un autre, parce que je suis un petit peu resté sur ma faim, bon, c'est mon avis. Si vous voulez commencer à vous intéresser à ce sujet, ça peut être intéressant. Donc, on a... alors, c'est quoi cet article que j'avais trouvé? Eh ben, par exemple, le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Alors, c'est pareil, on a une monnaie à peu près unique, hein, entre plusieurs pays africains. Et je me suis rendu compte que, en faisant des recherches, que ce franc CFA, donc qui était avant affilié à la France, hein, franc CFA, tout simplement, magique, eh bien en fait, maintenant il est affilié de facto à l'euro. Et forcément, ben, eux, ça leur pose des problèmes, parce que la zone euro, elle a pas de croissance. Voilà, donc va pas s'en cacher. Et forcément, les soucis qu'il y a eu en Europe rejaillissent sur le franc CFA. Par exemple, la crise de 2008, tout ça, etc. Ça, c'est mondialisé et globalisé, mais c'est, voilà. Et après, on a eu le souci de la dette avec la Grèce. Et là, patatras, forcément, comme eux sont affiliés à l'euro, eh ben, ils en ont pris plein la gueule. Voilà. Et sachant que les économies africaines ont quand même un gros potentiel en termes de croissance, eh ben, ils se retrouvent freinés, eux. Voilà. Et donc, on se retrouve encore dans le schéma de l'ancien colon qui fait chier. Hein. Le colon, le mec, hein, pas l'intestin. Hein. Ne faites pas ça, il faut vous réfléchir un peu quand même, mais c'est différent. Et je mettrai aussi cet article, ça permet de voir un peu, voilà, et qu'il y a d'autres pays qui ouvrent le débat à l'ouverture de d'autres monnaies, etc. Parce que, en fait, le gros problème de l'euro, je n'en ai pas forcément parlé, alors j'ai parlé de la croissance, tout ça, etc. C'est qu'en fait, au niveau national, je ne sais pas comment on pourrait dire, bon, bref. On a de moins en moins de ressorts, en fait, si vous voulez. C'est ce qu'a fait la Chine assez récemment. Je crois que le Japon l'a fait aussi, tout ça, etc. C'est de dévaluer sa monnaie. En fait, en dévaluant sa monnaie, ça permet de faciliter les échanges avec l'extérieur, tout ça, etc. Et donc, ça permet, comme dirait Jacques Sapir dans son livre, d'après plusieurs études, si on dévalue sa monnaie de 10% à peu près, on gagne 1,5% de croissance, voilà, sur quelques années. Après, il reparlera aussi, il y a peut-être un problème d'endettement des ménages, il y a un problème aussi de la dette publique, parce que ça dépend qui a acheté la dette publique avec quelle monnaie il a acheté cette dette publique. Donc si la dette publique est dans une monnaie et que la nationalité, voilà, enfin c'est un peu selon la nationalité et la monnaie de l'acquéreur de la dette. Non, voilà, ça fait un peu, voilà... Et c'est pas non plus, c'est pas un long fleuve tranquille, mais voilà. Et donc la France et les autres pays européens en particulier ne peuvent pas dévaluer leur monnaie, parce que c'est l'euro, et que l'euro est dirigé par une instance non élue qui est la Banque Centrale Européenne, qui est à la fois affiliée à l'Allemagne, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est aussi un petit peu déconnectée. C'est-à-dire que à un moment on s'est dit, pourquoi ne pas déconnecter ces instances économiques des instances politiques, du fait que, et ça je pense que certains le savent que trop bien, les mandats étant rikiki, même on pourrait mettre des mandats de 140 ans, je pense que les mecs ils trouveraient toujours ça rikiki, ils seraient toujours en campagne perpétuelle. Et comment dire, et on s'est dit, bon, mais comme les mandats sont ridicules, plutôt que les laisser faire n'importe quoi, parce que les mandats sont ridicules, mon petit, que de, pour essayer de faire des promesses de campagne intenables, parce que ça, on les connaît, plutôt que de laisser faire n'importe quoi, on va déconnecter tout ça du politique, entre guillemets, et mettre ça en mode un peu automatique, avec, on va mettre des technocrates, et puis ils géreront ça bien, tout ça, etc. Sauf que forcément, quand on déconnecte ça à 100% du politique, et bien forcément, déjà, on se prive de marge de manœuvre. Donc, ce que je dis tout à l'heure, c'est d'évaluation, tout ça. Est-ce qu'on imprime de l'argent? Est-ce que, voilà, on fait tourner la rotative pour justement un petit peu d'évaluer, tout ça faire, etc. Et là, déjà, on a plus de marge de manœuvre. Et derrière, on rajoute les traités européens qui sont, bizarrement, plus liberticides qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il faut respecter des traités de budget, tout ça, etc. Et on en arrive donc à des conditions un petit peu ubuesques où en fait on se retrouve à avoir la France et l'Italie qui ne risquent pas trop de respecter la règle tacite des 3%. Il ne faut pas faire plus de 3% de déficit chaque année, sinon attention, le gendarme européen va venir taper à ta porte. Donc on avait à peu près la même chose en France et en Italie. Hein, grosso modo, peut-être structurellement en Italie c'était un peu plus un petit peu moins bien qu'en France, c'était des réformes un peu moins chouettes, bon, pourquoi, enfin bref, c'était, au bout d'un moment ça devient un peu débile, et on s'est retrouvé à ce que monsieur Pierre Moscovici, qui est commissaire européen, se dise: attention monsieur les Italiens, ce que vous avez fait c'est pas bien, c'est mal. Et forcément, il en a dit beaucoup moins par rapport à la France, alors que c'était à peu près dans les mêmes eaux. On va dire les mêmes, hein. Pour moi, c'est du pareil au même. Donc, sauf que un est gouvernement et pro-européen, dans celui d'Emmanuel Macron, et nous avons un gouvernement qui est, lui, europhobe, hein, celui de la, comment ça s'appelle, du mouvement 5 étoiles, et de la Ligue, incarné par, je pense que vous le savez, Matteo Salvini, qui fait de temps en temps des sorties un petit peu, hein, un petit peu ric-rac. Hein. Voilà. Donc on se retrouve, d'avoir des limites, ben on se retrouve avec des limites partout, en fait, à peu près, quoi. Grosso modo, c'est pour ça que pas mal de personnes militent pour la sortie de l'Union Européenne. Je pense que ça réglerait pas, de toute façon, tous les problèmes, hein. Faut pas déconner, entre avec une économie... globalisé, il y a toujours des marges de manœuvre qu'on ne pourra plus prendre. Mais on se retrouve à faire des un petit peu du blonné, du déshabillage de Paul pour réhabiller Jacques. Pas ça pire. Mais voilà, on se retrouve un peu à faire de l'échange de bons procédés. On se dit de temps en temps, on va essayer de gratter la dette à minima. Parce que de toute façon, la dette, je crois que c'est impossible de les rattraper. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre la plupart des économistes, parce que ceux qui disent que la dette n'existe pas se font forcément taper sur la gueule par ceux qui disent que la dette existe, hein, parce qu'elle est là. Mais j'ai du mal à savoir comment un jour on la remboursera, parce que nous sommes dans une économie, dans un monde fini, et la dette, elle se creuse quasiment à l'infini, parce qu'on rajoute derrière des taux d'intérêt, des trucs comme ça, tout ça, etc. Parce que tout le monde va récupérer des billes là-dessus, et finalement, on creuse l'insondable, en fait. Et je me dis, mais je sais pas où c'est qu'on va. Donc voilà, Jacques Sapir parle à peu près de tout ça, etc. Et voilà, donc on peut voir aussi que l'euro a d'autres... voilà. Alors forcément, il parle pas toujours forcément des avantages. Le souci, c'est que des fois, le livre manque celui-là un petit peu de partialité, peut-être. Je trouve qu'il aurait pu parler des avantages de l'euro. Je les vois pas forcément. Si, on aurait pu dire tout à l'heure comment ça s'appelle, le libre-échange des biens. Et des capitaux, bien évidemment, c'est ça qui les arrangeait. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher facilement des cigarettes à San Andor. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir un taux de change qui risque de nous être en notre défaveur si on va chercher des cigarettes au pas de la case, ou en Andor, bien évidemment. Est-ce que ça c'est mieux, ou voilà, parce que on se retrouve du coup avec une zone qui est homogène mais sans trop. Mais qui permet quand même les échanges. Donc c'est pour ça qu'on a des délocalisations dans des pays tiers, la Lettonie, tout ça, etc. Après, ça, ce n'est pas que non plus dans la zone euro. Hein. Que, voilà, par exemple, on a appris que BIC, ils allaient délocaliser en Tunisie. Voilà. Donc les BIC, bientôt, ça ne seront plus fabriqués en France. C'est le danger aussi de l'économie globalisée, et l'euro, c'est vraiment le chantre de l'économie globalisée. Alors moi, je ne sais pas en quoi en penser, pour l'instant, je suis encore en découverte de cet univers. Est-ce que de là à penser qu'il faut faire un Frexit, je ne sais pas. pour la simple et bonne raison que je vois pas de... Enfin, si, tu vois des avantages, mais je me pose des questions. Alors, est-ce que ça va tourner à la grande catastrophe? Je ne pense pas. Est-ce que ça va tourner à la grande amélioration? Tout ceci est une autre question. Ça, par contre, j'ai un peu plus de doutes. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce livre, donc de Jacques Sapir, l'euro contre la France, l'euro contre l'Europe. Alors, c'était une présentation un peu foutraque. Hein. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, je me lance dans de tout nouveaux formats. Je fais de l'innovation, hein. Je suis disruptif, comme diraient certains. Donc voilà, vous retrouverez d'autres articles, vous retrouverez aussi, alors il est très intéressant, il se base aussi sur les travaux, les écrits de Jacques Sapir. C'est le site Le Comptoir. Et ça vous parlera des 20 ans de la zone euro. Le pourquoi, du comment, et ça s'appelle l'euro 20 ans d'aveuglement. Là au moins, il n'y a pas de. Il n'y a pas à se cacher dans un petit doigt, les mecs, ils sont encore plus mieux que moi. Et ça vous parlera, voilà, ça vous fera un petit récap. Je pense que vous pouvez lire les deux. Après, bon, forcément, c'est vrai que s'intéresser sous l'euro sous cet angle-là, c'est être vu comme un souverainiste. Je sais que maintenant, J81 rimera dans la tête à certains avec souverainiste. On va croire que je suis de l'UPR bientôt. Bonjour, vous connaissez l'UPR. Mais c'est juste que je me pose des questions. Je pense pas que je ne pense pas qu'un retour aux francs soit une réponse adéquate à tous les défis de la vie. Hein, je ne pense pas que ça réponde à tout simplement. Mais visiblement, nous n'avons plus de marge de manœuvre sur certains points. Donc pourquoi s'entêter dans cette démarche-là? Mais vous le verrez dans d'autres épisodes, je pense, que le système du tout globalisé et du tout libéralisme et du tout capitalisme et du tout financier, est un petit peu arrivé, pas en fin de course, parce qu'il a encore, je pense, de beaux restes, mais je pense qu'un jour, il va falloir changer de paradigme, comme j'avais dit dans mon épisode consacré au podcast à la fin. Je pense que ça ne sera que salvateur, parce que pour l'instant, autant vous dire, je ne sais pas où ça nous mène, mais on y va droit. Et on y va, comme dirait mon ami Jean Quatremer, on y va les deux pieds sur l'accélérateur, bravo à lui. On va vers des gros soucis, mais ça sera dans un épisode que j'appellerai à l'écologie. Ça, je lis des livres et je m'y penche. Voilà. Et c'est pour vous, parce que je vous aime, mes amis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode légèrement foutraque. Je pense que certains sont morts dans leurs écouteurs, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un foutraque comme ça. Et ils n'ont surtout pas l'habitude qu'on leur parle comme ça, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Donc, je pense que alors, de ce que j'ai commencé à travailler, de ce que j'ai commencé à lire, vous aurez à peu près un épisode par mois. Hein. Ce sera tranquille. Ce sera inclusif. Oh, merde, j'ai encore utilisé ce mot. Ce sera chill. Ce sera un genre de... Je sais pas, je serai un peu votre Netflix de la lecture. Donc, c'est-à-dire que je vous ferai acheter un truc plus cher que Netflix. Ce sera un livre... mais vous regarderez des trucs moins cons et j'espère que surtout vous arrêterez de dire que la dernière série à la mode est la dernière série à la mieux. Voilà, parce que ça me gonfle un peu aussi. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc Jacques Sapir, je vous en reparlerai. J'ai dans les cartons donc le livre sur l'euro et j'ai aussi dans les cartons un livre qui s'appelle La démondialisation, qui traite un petit peu d'autres aspects que l'euro. Pareil. Ma foi, fort intéressant. J'ai après aussi alors. Vous connaissez, et j'ai un gros planning. Hein. Donc il y aura un épisode sur l'écologie, que je vous promets depuis déjà quelques temps, c'est du beau dossier, là c'est un vrai dossier pour une fois que je vous fais, j'espère que là je prendrai plus le temps d'écrire tout ça, etc., parce que je vous fais une lecture de livre, mais moi j'ai mauvaise mémoire, donc déjà, je dis pas que j'ai oublié la moitié du livre, mais c'est pas grave. Donc vous aurez voilà un dossier sur l'écologie qui sera à ma stock. Vous aurez alors dans un pareil, je suis en train de le lire. Vous aurez un dossier, enfin un retour de lecture qui introduira le sujet sur l'écologie. Donc ça s'appelle Une nouvelle terre du philosophe Dominique Bourg. Ça sera pour bientôt, je pense normalement pour le mois de février. Après on fera un suivant. Et après donc vous retrouverez. Je vous ai promis aussi un truc sur la crise des subprimes, mais je continue à me renseigner sur l'économie, pour essayer de vous dire le moins de conneries possible, tout en sachant que je peux dire énormément de bêtises, parce que je vois déjà des économistes en dire beaucoup, et qui s'insultent entre eux, mais finalement je ne sais pas qui a raison de qui a tort, parce que en fait c'est tellement abstrait que bon, c'est un peu... je sais pas. C'est un peu, j'ai l'impression qu'on a changé... je sais pas. C'est comme mon fou. Après, non, il y aura d'autres sujets, alors des dossiers, j'en ferai pas souvent parce que c'est un peu long. Hein. J'ai déjà celui sur l'écologie, et quelque temps que je bosse dessus, peut-être même 6 mois, même plus. Et il est pas fini, hein. Ce n'est pas drôle. Et j'essaierai, voilà, à chaque fois de faire des. Comment ça s'appelle? Des lectures qui reviennent par rapport à des dossiers, des lectures qui s'associent à des dossiers, de vous faire passer aussi des contacts de podcasts qui parlent de ces choses-là. Malheureusement, j'en connais pas parce que, ben, en fait, il y a tellement de podcasts qui sont mainstream, pour de vrai, hein. Ça parle jamais de ça. Hein. Je sais pas. Et ça nous parle de trucs, des fadaises. Des conneries. Hein, je dis pas. C'est pour ça que moi, je fais mes autres podcasts, ça sans aucune prétention parce que je pense que ça n'a aucun. Je dis pas qu'ils n'ont aucun intérêt, je dis qu'ils ont. Voilà, je ne vais pas péter plus haut que mon cul, j'en vois énormément qui pètent plus haut que leur cul, hein, qui lancent des financements participatifs, des trucs patins, couffins, à droite, à gauche, essayant de faire croire que tout chez eux est d'une importance capitale. Je n'ai pas utilisé ce mot par hasard. Et alors que moi, à côté, bah, je ne sais pas, moi c'est juste vous faire partager des bricoles et puis essayer de vous faire réfléchir un petit peu, alors, un petit peu prétentieux, mais bon, c'est un peu, voilà. C'est toujours cette espèce de. J'ai toujours le goût de partager, le goût de la découverte avec vous. C'est pour ça que dans mes autres podcasts, donc par exemple Up to Eleven, je pense que c'est le plus simple à parler, je vous fais découvrir des. J'essaie de vous faire découvrir des groupes, des artistes, tout ça, etc. Que vous auriez un petit peu mieux la chance de connaître, parce que même moi, je suis tombé dessus un petit peu par hasard, un petit peu en fouillant à droite à gauche, et que j'ai trouvé ça pertinent, et que je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, moi c'est vraiment ce sens de la découverte. Donc je lis en fait des livres pour vous, et je vous les explique mal. Et ça sera le but, et après je vous ferai des dossiers où je vous engueulerai probablement, et je vous traiterai mal, et j'en traiterai mal. Voilà. Et ça sera très drôle. Donc, j'ai beaucoup de donc avec moi. C'est mon gros défaut. J'espère qu'un jour on me fera une lobotomie pour m'enlever le mot donc, et le mot voilà aussi. C'était Jacques Sapir, l'euro contre la France, l'euro contre l'Europe, le point sur la table parce que ça rigole plus. Non, j'en retraiterai de lui. Vous pourrez dire que je suis un souverainiste russophile maintenant. Ça me dérange pas. Vous pouvez aussi dire que je suis con, mais ça je le savais déjà. Donc je vous dis tout simplement à bientôt pour un nouvel épisode de Flux RSS, donc dans un mois, et c'était toujours @Gandalf81 aux manettes. Et qui vous fait des bisous pour cette année 2019, parce que je pense pas que certains aient entendu mes vœux dans une autre émission pour l'instant. Donc je vous fais la bise et je vous dis à bientôt dans Flux RSS. USSR.